Vous allez pouvoir réécouter un documentaire déjà diffusé sur notre antenne le 13 décembre 2005, un documentaire de Séverine Niattard et de Christine Robert. La grève des ouvrières d'Herstal en 1966, un tournant pour l'histoire des femmes. En 1966, en effet, en février, les 3000 ouvrières de la fabrique nationale d'armes d'Herstal, près de Liège, en Belgique, étaient parties en grève sans préavis pour que soit appliqué l'article 119 du traité de Rome visant à réduire les écarts salariaux entre les hommes et femmes. C'était la question du travail égal, salaire égal, et c'est ce dont nous allons parler jusqu'à 10h dans la fabrique de l'histoire.
Tais-toi.
T'appuies ?
Oui, on le sait.
J'arrive !
C'est bien ! J'arrive. Moi aussi, j'ai reconnu sa voix et là, elle reconnaît la mienne.
À travail égal, salaire égal. La grève des ouvrières d'Herstal en 1966, un tournant pour l'histoire des femmes.
La voilà.
Bonjour.
Ça va?
Bonjour.
Voilà la voiture.
Bon, on va quand même à Herstal, hein.
Et qu'est-ce qu'on va foutre là? Je suis me le demander. Ce n'est plus notre FN, nous, hein?
Non.
C'est plus ça, hein? Il n'y a plus rien.
Au contraire, nous, on a mal au cœur quand on y va.
Oui.
Parce que, hein, quand vous voyez 3000 femmes et que la dernière fois, on en a rencontré une.
Eh bien, je vous assure que de voir partir 3000 femmes comme ça, j'en ai toujours la chair de poule. Je peux vivre 100 ans, je n'oublierai jamais.
Non, ce ne sont pas des fans d'Henri Salvador, mais des femmes en grève pendant 64 jours. Plus de 3000 ouvrières, principalement des ouvrières de la fabrique nationale d'armes et de munitions à Herstal, ont cessé de travailler pour obtenir l'application du principe à travail égal, salaire égal.
Tu sais, quand tu rumines, que tu rumines ce qui ne va pas, et puis que tout d'un coup ça part, là alors c'est la révolution, hein.
Dans le bassin industriel liégeois, en Belgique, l'industrie armurière est présente depuis le XVe siècle et bénéficie de conditions économiques et politiques favorables. La fabrique nationale d'armes d'Herstal, dite la FN, est une entreprise prospère qui emploie, au début des années 60, 10 000 ouvriers. Au début du mois de février 1966, ce sont les ouvrières de la FN qui arrêtent spontanément le travail et, sans préavis, se mettent en grève. Les femmes machines revendiquent l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elles brandissent l'article 119 du traité de Rome, signé en 1957, qui institue la Communauté économique européenne. Elles sont chromeuses, réviseuses, ponceuses, colleuses, ébarbeuses, emballeuses ou dégraisseuses. Elles n'ont pas accès à la formation professionnelle interne à l'entreprise et touchent en moyenne 7 francs de moins que leurs collègues masculins. Elles demandent 5 francs d'augmentation. Rita Josette, femme machine.
Voilà. Vous vous rendez compte quelle usine c'était ?
C'est assez magistral, hein. C'est des grandes grilles.
Là, c'est le phalanstère. L'autre bâtiment, je ne sais pas.
Alors, il y avait un grand bâtiment, c'était la cartoucherie.
On l'a abattu.
Et le grand hall, tristement célèbre, qui était juste là.
Donc le grand hall, c'est là où vous travaillez.
Le grand hall, oui, moi, oui. Rita travaille au Moser.
Tout à fait de l'autre côté, au Moser.
C'était une fabrique très importante qui, à l'époque, employait 13 000 personnes, c'est-à-dire une des plus grandes entreprises du bassin.
Claude Gaillet, ancien cadre à la FN et historien.
C'était une fabrique très importante créée en 1889 par un groupe d'armuriers qui s'était associé pour satisfaire à une très grosse commande d'armes militaires pour l'État belge d'abord et pour l'extérieur ensuite. Malgré son nom, elle n'était pas nationale du tout, puisqu'elle appartenait à un groupe privé qui était la Société Générale de Belgique, mais qui cependant laissait très fort la bride sur le coup à l'équipe liégeoise qui était chargée de la diriger, avec un président, bien sûr, un conseil d'administration et un directeur général. Alors c'était une société très traditionnaliste, très paternaliste aussi. Alors les conditions de travail à cette époque-là sont difficiles, elles sont archaïques, ça ne pouvait pas continuer comme cela et il est tout à fait normal que les ouvrières, à un moment donné, se soient insurgées contre des conditions d'hygiène qui étaient assez sommaires, contre des modes de direction qui étaient fort autoritaires et qui ne correspondaient plus du tout à l'esprit du temps.
Veux-tu que je te dise la réflexion que j'ai faite quand je suis venue me présenter à l'EFEN, quand on m'a engagée?
Charlotte Augustin, femme machine.
On a passé dans la cour et dans le bâtiment du Grand Hall. Mais avant, elle me dit, je vais vous montrer d'abord, dit-elle, votre réfectoire et votre vestiaire. Il y avait la porte, parce qu'il y avait l'outillage. Hein.
Oui.
Fait, bon, je n'étais pas entrée encore dans le Grand Hall. On monte au premier étage, vestiaire, hein, tu connais. Passe un palier, réfectoire, voilà. Elle me dit, maintenant nous descendons dans le hall. Au-dessus de l'escalier, je regarde le bazar, moi ça ne m'impressionnait pas.
Non.
Je connaissais les usines à 14
ans. Oui.
Même avant, j'allais voir mes parents travailler. Eh bien, tu veux savoir la réflexion que j'ai faite? Je regarde. Mais ma parole, c'est le 19e siècle ici. Je te jure que c'est ce que j'ai pensé. On descend dans l'escalier, dans le gros hall.
Ah oui. Alors, Jeannie Manier, quand est-ce que vous êtes rentrée à la fabrique d'armes?
C'est toute une épopée chez moi. Je suis la 10e de 12 enfants.
Jeannie Manier.
8 filles et 4 garçons.
Femme machine.
J'avais prévu d'être assistante sociale ou travailler dans le social. Ça me plaisait énormément. Mais la vie a tout changé pour moi. Je suis à 14 ans, je suis entrée à l'éclairage de mine quand la guerre a cessé. Mais malheureusement, mon papa est tombé dans un bombardement et comme il était cardiaque, il est mort dans la rue. Alors maman pleurait, elle se demandait comment elle allait vivre. Et alors, on a dit, ben, on va aller travailler, maman, ne te tracasse pas. Mon frère faisait des études et ma sœur aussi, une de mes sœurs. Alors, on est allé voir chez Schröder, rue des Français, et là, nous travaillons, c'était très propre.
Chez Schröder, c'était quoi comme usine?
C'est des choses d'électricité. Et alors, on travaillait sur des presses, avec un petit tablier bien coquette. On allait même travailler dimanche pour rattraper le temps perdu, parce qu'on était démunis de tout après la guerre. Alors, on a appris qu'à la FN, on gagnait 3 francs 50 à l'heure, de plus que chez Schröder. Alors, nous sommes allés nous engager. Je travaillais au groupe 12, au Grand Hall. Et alors, on m'a fait faire, pas même visiter les FN, mais on nous a dit, voilà, vous allez faire ceci. On nous a pas dit, il faut prendre pour vous protéger, rien du tout. Et on est venu comme chez Schröder, avec une belle petite robe, un petit habillé mascotte. Oh, Seigneur. Quand nous sommes retournés, on avait de l'huile jusque sur le ventre.
Oui, Jeannie Manier, comment c'était quoi les conditions de travail à la fabrique nationale?
Pitoyable. On n'y mettrait pas un cochon.
Une personne qui n'est jamais rentrée dans une usine ne peut pas s'imaginer ce que c'est une usine. Le bruit, le travail lourd, tout. Et puis alors, vous devenez des machines, hein, vous tournez à vos machines, vous avez 4 machines là, 4 machines là, et vous tournez comme ça. Finalement, vous ne savez plus de quel côté vous devez aller, et on est devenus des robots. Nous étions nous-mêmes des machines. À bouger, à remettre des pièces, à faire ça pendant 8 heures, nous devenions une machine. Nous n'étions plus des femmes.
Et à quelle heure vous commenciez le travail, Rita Josette?
7h30, jusqu'à 5h. Il fallait arriver à temps pour être 5 minutes avant prête au travail, avec les tabliers, le bonnet, prête aux machines. Mais on ne le faisait pas. Parce que bien qu'on a voulu nous tenir en esclavage, nous n'avons jamais été des esclaves. Hein? Parce que les petits chefs, là, hein, on savait ce que c'était.
C'était quoi, des chefs de machine, des chefs de service,
de groupe? Parce que un groupe fait une, 2 voire 3 pièces. Parce qu'on ne fabrique jamais les pièces d'un fusil ou d'un revolver, d'une arme, quelle qu'elle soit, dans le même groupe. Parce qu'on pourrait les assembler, on pourrait les sortir, on pourrait monter des armes. Nous, dans le groupe en face, on faisait les petites pièces. La gâchette, la mire, toutes les petites pièces qui allaient devant, et le groupe à côté faisait tous les ressorts.
Mais alors du coup, Rita Josette, c'était répétitif comme travail.
Tout. Je vous dis, on devenait nous-mêmes des machines.
Il fallait qu'on fasse la production. Il n'avait que ça. Les ouvrières étaient considérées comme des robots. Il fallait la production, la production, la production. Et tant que vous faisiez la production, vous étiez bonne ouvrière.
Jenny Magnier.
J'étais polyvalente, j'allais sur toutes les machines, n'importe laquelle. Tant qu'on me montrait, je le savais. Et on m'a mis à la première étape de la finition. C'est-à-dire que si moi je faisais une mauvaise pièce, toute la finition était foutue, on devait l'acheter au riquette, comme on dit ici à Liège.
Alors, quand même, Jenny Magnier, il y avait une certaine qualification, une certaine adresse, une certaine précision dans votre travail.
Ah oui. Seulement, la précision ne nous servait à rien. On n'avait pas de qualification. Mais les garçons machines qui faisaient exactement le même travail que nous, sur des sèches beaucoup, mais aussi sur les autres machines, eh bien, eux, ils avaient 5 francs de l'heure. Et ça commençait à nous faire tiquer.
Les patrons trouvaient un immense avantage à créer un ghetto de fonctions féminines.
Annie Masset, de la commission femmes de la FGTB.
Par exemple, à la FN, les ouvrières accédaient à des emplois de femmes machines. Bon, ça veut dire qu'elles usinaient toutes les pièces du fusil dans des machines, en se servant de machines extrêmement vétustes, puisque sur 4000, il y en avait 2800 qui dataient d'avant-guerre. Des machines à poulies, un bruit infernal. Pour ne pas rayer les pièces de fusil, elles travaillaient dans de l'huile de poisson. Toutes les pièces étaient usinées. Elles passaient comme des chevaux de carrousel d'une machine à l'autre. Et c'était donc un travail sale, pénible et dangereux. Elles faisaient ce travail en même temps que des gamins, des jeunes gens, qui dès qu'ils atteignaient 18 ans, eux étaient sortis de la fonction et passaient dans des groupes de fonctions différentes où ils pouvaient s'améliorer et bénéficier de la formation spéciale que l'AFN, que l'école de l'AFN donnait pour qualifier ces ouvriers. Les femmes n'y avaient pas accès. Donc elles restaient éternellement dans une fonction qui n'était pas mixte puisqu'elle n'était faite que par elles et par des gamins. Bon. Ça servait évidemment à freiner l'évolution des rémunérations et à produire un meilleur marché.
C'est ici, à la FN de Herstal, à la Fabrique Nationale des Armes de Guerre, que 3800 travailleuses se sont mises en grève le 16 février dernier.
9,9 millions, un reportage de Pierre Manuel pour la RTB.
Que veulent les grévistes ? Elles veulent l'application de l'article 119 du traité de Rome. Leur slogan est « Un salaire égal pour un travail égal ou équivalent ».
Cette grève, justement, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez l'impression que c'est uniquement pour une égalité de salaire ou bien est-ce que c'est quelque chose de plus important que vous, quand vous faites la grève, les femmes ?
Oui, c'est pour l'égalité de salaire, mais aussi pour la revalorisation féminine.
C'est une question de respect de la femme aussi, en général, dans la société ?
Surtout.
Comment ça ?
Parce que jusqu'à présent, on a toujours considéré la femme comme un être inférieur. Disons que même du côté de nos camarades hommes, je ne veux faire de la peine à personne, mais il y en avait beaucoup parmi eux qui ne prenaient pas conscience du rôle de la femme dans la société.
En somme, vous vous plaignez de l'inégalité de salaire, mais aussi, semble-t-il, d'un manque de considération, c'est bien ça ?
Enfin, je vous dis mon idée, moi je la vois comme ça, il me semble qu'on n'est pas considéré de tout les femmes dans la fabrique. Ça me fait mal de travailler à des conditions comme ça. Parce que j'estime qu'une femme, qu'elle travaille à la fabrique, il me semble que toutes les femmes comme moi, ils travaillent avec amour et ils essayent de faire leur journée et le mieux possible, qu'on devrait même la considérer pour le travail qu'elle fait.
Eliane Vogel-Polski, à quel moment et dans quelles circonstances avez-vous rencontré donc les ouvrières de la fabrique nationale d'armes d'Herstal ?
Écoutez, c'est bien simple. Je les ai rencontrés en 65, en décembre 65. Et en fait, c'était à l'occasion d'une session de formation destinée seulement à des ouvrières et de plusieurs secteurs différents, mais en gros dans les fabrications métalliques. Et donc, à ce moment-là, j'ai rencontré Charlotte Augustin et les autres. Il y avait 3 ouvrières qui venaient à FN et qui ont participé à cette session de formation. Alors, au cours de cette session de formation, personnellement, j'étais chargée de leur parler du droit européen, du droit social européen. Et à l'époque, cela faisait déjà une dizaine d'années que je défendais farouchement la thèse selon laquelle l'article 119, donc sur l'égalité des salaires, était directement applicable et non pas, comme le prétendaient et la Commission européenne et les gouvernements des États membres, une disposition purement, disons, intentionnelle ou à vocation de recommandation de bonne volonté. Alors, moi, je les ai convaincus avec des mots simples, mais je leur ai expliqué qu'il existait du droit international, qu'il existait du droit européen, que ce droit était applicable de dans tous les États membres et qu'à mon avis, elle pouvait directement se prévaloir en justice au moyen donc de l'article 119.
Parallèlement, des négociations se menaient.
Animassées.
Ouais, officiellement, dans le cadre des commissions paritaires qui réunissent les patrons et les syndicats et qui apprécient le contenu des revendications que l'on dépose et où on va en général vers des accords. Tout ça était sur la table. D'une part, le mûrissement des esprits et d'autre part, l'évolution des négociations en fonction, d'une part, des dispositions de l'ONU et d'autre part, du traité de Rome qui prévoyait d'aller progressivement vers l'égalité. Et à ce moment-là, des échéances avaient été fixées. On devait d'abord réaliser l'égalité de salaire pour 1961. Puis, comme personne n'était prêt, l'Europe a finalement décidé d'un calendrier en 3 ans. En 64, il y avait toujours une inégalité. Et il avait été décidé alors de considérer que il fallait protéger le droit à l'égalité devant les tribunaux et que les États devaient refuser d'entériner ces conventions qui ne réaliseraient pas l'égalité. En Belgique, les patrons étaient du reste très réticents. Chaque fois que les organisations syndicales avaient tenté à différentes reprises aux échéances des conventions de mettre sur la table le problème de l'égalité de salaire, eh bien les patrons avaient refusé de purement et simplement de discuter. Et finalement, par exemple, ils avaient quand même finalement admis qu'on mette sur pied une commission de classification qui aurait permis de régler un certain nombre de problèmes. Et il n'était pas question pour cette commission d'enquêter dans les usines les plus sensibles où la discrimination était la plus forte. C'était donc vraiment une preuve de mauvaise volonté. Ils craignaient, disait-il, la surenchère des revendications pour les hommes. Ils craignaient également que de favoriser des femmes dont ils soulignaient l'absentéisme. On ne se gênait pas pour salir l'image des travailleuses, quoi. Hein. Donc c'était un climat très, très, très mauvais pour une négociation. Il n'y avait pas de volonté d'aboutir. Et il se retranchait aussi derrière les imprécisions des textes qui parlaient de travail égal.
Parce qu'en effet, c'était ça le piège. C'est que ces femmes machines faisaient un travail exclusivement féminin, à part les gamins machines, mais qui étaient considérés finalement comme des apprentis, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça la grande difficulté quand un travail n'est accompli que par des femmes, eh bien c'est très facile de leur dire votre travail vaut 7, alors que le travail de tel groupe d'hommes vaut 10. Hein. Y a en principe pas de travail strictement égal. Et c'est pourquoi la notion de valeur égale était très importante. Et en outre, elles en ont fait une démonstration, mais je dirais évidente, puisque le fait que leur atelier était en grève, elles ont complètement, toute l'usine a dû cesser sa production.
Comment est-ce que ça a commencé cette grève, dans quelle atmosphère? Racontez-nous un peu ça.
Houleuse, oui.
Jenny Manier, filmé à l'époque par Pierre Manuel de la radio-télévision belge.
C'est-à-dire qu'on nous avait parlé du traité de Rome, n'est-ce pas? Et on nous avait parlé du salaire égal, un travail égal, n'est-ce pas? Alors les femmes étaient lasses d'attendre et le patron se reclenchait derrière le plan national, n'est-ce pas? Et ils tournaient en rond, ils ne se dépêchaient pas, et les femmes étaient vraiment exténuées d'attendre. Elles n'ont plus voulu écouter rien que ce soit, même pas les organisations syndicales. Il n'y a rien eu à faire, enfin, même qu'on leur disait « reprenez le travail », on va essayer d'arranger l'histoire, il n'y a rien eu à faire, elles ont dit, ce n'est que des promesses et nous n'aurons jamais rien.
Il n'y a rien eu à faire, on a travaillé, on a travaillé, on a travaillé, puis on a eu des réunions.
Jenny Magny.
Et on avait une petite dame qui travaillait au petit hall et qui était très avant aussi parce qu'elle travaillait déjà avant la guerre. Et elle était communiste, mais elle était si gentille. Et c'est elle qui a mené le chambard, comme on dit, avec les garçons machines. Et alors...
C'était pas Madame Martens?
Je ne sais pas si c'est Madame Martens. Nous autres, on a pris la petite Germaine.
Germaine Martens.
Et là, elle a dit, on ne rit plus de nous autres, c'est fini. Et on part en grève, que le syndicat soit content ou pas, on y va.
Et j'ai jamais été aussi extraordinairement frappée qu'un jour, en me réveillant, j'entends à la radio que les femmes de la FN se sont mises en grève et que ce qu'elles réclament, c'est l'article 119. Alors vraiment, ça a été un des chocs les plus profonds de ma vie professionnelle.
Ça a démarré, il y avait au petit rôle, mais il faut connaître la FN pour ça.
Rita Josette.
Une vieille dame, la vieille Germaine, communiste, qui a dit « Oh, moi j'en ai marre, au tape Dieu !» On parle wallon, en effet, à toutes les usines. Hein. « Au tape Dieu », ça veut dire « on arrête ». On a arrêté les machines dans le tirol, on a arrêté les machines. Elles se sont mises en cortège et elles ont fait tous les rôles. Et allez, on arrête. Fini ou pas fini, on arrête.
Eh bien, je vous assure que de voir partir 3000 femmes comme ça, j'en ai toujours la chair de poule. Je peux vivre 100 ans, je n'oublierai jamais.
Ça ne s'en ira jamais. Parce que faire une grève, c'est faire la guerre.
C'est un souvenir qu'on ne sait pas oublier. Hein. Une révolution pareille, on ne la vit pas souvent deux fois. Hein.
Charlotte Augustin.
On dire que par moments, on risquait d'avoir un peu peur hein, de les voir certaines, parce que c'est là, réellement, quand je pense le directeur du personnel qui avait dit, ou de délégué syndicaux, je ne comprends pas que vous n'ayez pas pu les arrêter. Le pauvre imbécile qui serait venu pour nous arrêter, il était mort.
On est peut-être 3000. Une poignée, c'est une grosse poignée.
Ouais, il y avait un tiers du personnel. Et quand les gens sont déchaînés comme ça, je ne sais pas ce qu'on peut faire.
Moi, j'étais allée à mon syndicat pour voir quelle attitude je devais prendre. Je ne pouvais pas prendre d'attitude. Je devais demander l'avis à mon syndicat.
Alors, votre syndicat, Jenny Magnier, c'était la Confédération des syndicats chrétiens, c'est ça, la CSC?
C'est ça.
Et vous leur avez demandé, donc, leur avis par rapport à cette...
Revenais de là-bas et j'ai voulu nettoyer la machine. Et j'ai un gamin qui est venu vers moi et il m'a dit... En vulgaire wallon, mais le vulgaire, je ne le dirai pas. Si tu n'arrêtes pas, je vais te tuer avec ça. Et c'est un grand bidet où on faisait l'intérieur des JP.
C'était incroyable. Et parlons les gamins, tu comprends bien, t'avais les gamins, ce qu'on appelait les gamins machines. Hein? Quand t'es jeune, t'es bien, t'es pour le chômeur. Ils attrapaient des morceaux de tôle, ils tapaient dessus. Nous voulons 5 francs. Et on a déambulé comme ça dans toute la cour, dans tous les bâtiments. À la cartoucherie, ils m'ont fait avoir peur de t'étais pas là avec nous, hein.
Non.
Rita, la trouillait, là. Elles ont pris des poignées de cartouches. Parce que dis, encore, une douille. Tranquille, hein.
Thank you.
alors elles ont ramassé les sous, des vieilles barres de fer, et nous sommes sortis en cortège, et nous sommes allés dans toutes les rues d'Hersal jusqu'à Coromus. Alors les ménagères ont entendu le bruit que l'on faisait, et elles ont crié toutes, « Bravo, continuez, on est avec vous, on est avec vous !» On n'a entendu que ça.
On a demandé aux délégués de ne plus nous laisser entrer à la fin. Parce qu'on se promenait dans toutes les fins, hein, c'est immense. Même au chargement des balles, là, on se criait l'une à l'autre, « Pas fumer, pas fumer, pas fumer, pas fumer !» On ne peut pas... C'était très dangereux. Et il y avait des femmes qui étaient là. Alors, on n'allait pas faire sauter le bazar et tuer je ne sais pas combien de personnes. Alors, on a fait ça pendant 4 jours. Et puis, le directeur a appelé les syndicats et il a demandé, faites grève, faites tout ce que vous voulez, mais ne les laissez plus rentrer à la FN, elles font trop de dégâts.
Donc c'était vraiment un mouvement, c'est pas que vous faisiez peur, mais en tous les cas, vous étiez extrêmement déterminés.
Les hommes avaient peur de nous. Il y en a un qui a d'abord dit, oh, je sais, les femmes laissent les faire. Elles vont gueuler comme ça pendant 3 jours, après elles sont contentes de revenir travailler. L'autre lui a répondu, je n'en sais rien, c'était comme elles sont parties, je ne crois pas. Et je ne voudrais pas tomber dans leurs pattes, parce que je crois qu'on passerait un sale quart d'heure. Et alors il y en avait d'autres qui étaient plus gentils, ils disaient, on va avec vous, on va avec vous. Non, 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 c'est une grève pour nous et on ne vous veut pas. Et ils sont restés là.
Première assemblée générale, Jeannie Magnier, en fait, les syndicats sont pas encore, soutiennent pas encore la grève.
On est parti en grève sauvage, ils ne voulaient absolument pas nous reconnaître. Alors, il n'y a rien à faire, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, qu'elle a dit la petite Germaine. On reste en grève, on y est et on y reste. Et on restera jusqu'à la fin. Alors, nous avons eu réunion presque tous les jours, au début, à la ruche à Hersal. C'était à danser au cinéma.
D'abord, on y est allé, nous, avec nos délégués de l'FN, qui étaient d'accord avec nous.
Rita Josette.
Parce qu'eux savaient comment on travaillait. Ils nous voyaient tous les jours. Et puis, il est venu les délégués de Liège, les FGTP, la CSC. Et quand ils sont entrés dans la salle, ils ont rasé les murs, tellement on les huait. Et puis, il y en a un courageux qui s'est retourné et il a dit « On reconnaît votre grève ». Et on a répondu « Il est temps ». Sinon, tout le monde avait peur de nous. Tout le monde avait peur de nous, tellement on était déchaînés.
Alors, comment ça se passe, Annie Massey ? Vous êtes au syndicat. Évidemment, vous apprenez assez vite que voilà, il y a une grève sauvage entre guillemets qui se déclenche à la FN d'Herstal. Donc, quelles sont les consignes de votre syndicat et puis vous, en tant que représentante de la commission femmes, qu'est-ce que vous faites ?
D'abord, on voit les métallurgistes et qui nous disent tout de suite, on va la reconnaître cette grève. Donc ça, c'était important parce que ça voulait dire qu'elles allaient bénéficier d'indemnités de grève. Puis, on s'est très vite rendu compte que des gauchistes, des trotskistes, des communistes essayaient de généraliser la grève dans l'ensemble de la région wallonne. Et pour faire pièce aux menées des gauchistes, l'organisation a tout de suite créé un comité de grève des femmes. 18 FGTB, puisque c'était l'organisation majoritaire, 6 CSC, plus les apports extérieurs, notamment l'organisation mutualiste chrétienne, les femmes, vie féminine, et puis chez nous, les femmes prévoyantes socialistes, nous autres, hein, parce que moi j'appartenais au syndicat des employés de la FGTB. J'étais donc une militante occupée à soutenir l'action syndicale dans les grands magasins, le commerce, les casinos, etc. Je n'avais donc qu'un rapport de cousinage avec la Fédération des métallurgistes, mais ils avaient besoin d'une femme à mettre en avant, d'une permanente syndicale à mettre en avant dans ce conflit pour ne pas avoir l'air trop macho et que ce qu'ils pourraient proposer ne soit pas refusé simplement parce que ça venait des hommes. Et aussi pour faire pièce donc à des irruptions étrangères au conflit.
Claude Gaillet.
Et là, il faut rendre peut-être cet hommage aux syndicats, c'est qu'après avoir été eux-mêmes débordés par ce mouvement, ils l'ont récupéré en quelque sorte, parce qu'il est clair aussi que s'ils ne l'avaient pas fait, ils perdaient la face comme interlocuteur. Or, dans le système social belge de l'immédiate après-guerre, on a instauré les conseils d'entreprise, la concertation entre le patronat et les travailleurs. Et c'est vrai que la direction avait tendance à se concerter avec les syndicats, c'est-à-dire finalement avec les représentants des travailleurs, mais non pas avec la base elle-même et la base en direct. Ça aussi, c'est un élément nouveau de cette grève, c'est que c'est la base qui, en direct, a pris les rênes, rattrapé sûrement par sa hiérarchie, mais sans passer par le mode traditionnel de concertation, j'allais dire pyramidal.
Jenny Magnier, Charlotte Augustin et Rita Josette, filmées à l'époque par Pierre Manuel de la radio-télévision belge.
Alors ceci, c'est le comité de grève.
Oui.
Et c'est composé FGTB,
CSC. FGTB, CSC, oui.
Comment est-ce que ça a été formé? Et quand ça, ce comité?
Ça a été formé, si je me souviens bien, après la première réunion.
On va même citer quelques exemples, peut-être.
Oh oui, sans doute, on vient justement de recevoir à l'instant une lettre. Agnès?
Ceci est une lettre d'une camarade gréviste flamande. Je vais vous toucher ma demande. Je vous demande à votre comité de grève si on pourrait m'apporter une aide. J'ai 5 enfants et un mari chômeur. Je vous remercie d'avance.
C'est pas agréable de faire une grève parce qu'on n'est plus payé que les indemnités du syndicat qui ne sont pas énormes.
Rita Josette.
Et moi, j'étais déléguée. On a beaucoup de travail.
Donc il y avait un comité de grève, oui. Il fallait s'occuper de...
Des personnes qui étaient malheureuses, qui étaient seules avec des enfants, ou le mari chômeur. Il y avait des malheureuses. Et pourtant, personne n'a retravaillé. Pas de piqué, pas une seule femme devant la grille de la FN.
Avez-vous seulement pensé à ces dizaines, ces centaines d'ouvrières qui doivent s'arranger avec leur mari, la femme faisant une équipe, le mari faisant l'autre, pour qu'il y ait toujours quelqu'un à la maison pour garder l'enfant.
Quelles sont les relations entre hommes et femmes à ce moment-là? Parce que du coup, vous êtes en grève, et donc les hommes, enfin une partie des ouvriers masculins, sont du coup au chômage, parce que vous êtes en début de chaîne, et qu'ils n'ont plus de travail.
Eh bien, je vais vous le dire, ça. On est arrivé à la ruche.
Jenny Magnier.
Et alors, on leur avait mis un haut-parleur à la porte. Et alors, je dis, moi, je remercie tout le personnel masculin de l'AFN qui a refusé de faire notre travail. Ils perdent beaucoup d'argent, mais je les remercie quand même. Et quand je suis sortie de la ruche, c'est tout juste qu'ils ne m'ont pas appris. Sur les épaules, crie bravo. Mais ça m'a émotionné très fort.
Maintenant, il y a eu les souffrances de la grève, hein, parce que
d'abord,
on a dû indemniser, comme grévistes, des hommes, 5000 hommes, que la grève des femmes condamnait au chômage. Alors, les organisations syndicales ont payé les chômeurs comme grévistes aussi, pour maintenir nullité dans le conflit. Ça a coûté la peau des fesses, hein, 3 mois. Parce qu'alors, c'était 12 000 personnes qu'il fallait indemniser. Hein. Bon. Alors, bon, ben, ça, on l'a fait. Quoi.
Alors, camarades, dans notre conflit, je voudrais ceci. Qu'on s'occupe un peu des malheureuses, qui sont livrées seules avec leurs gosses. Qu'on crée des crèches pour eux. Elles ne seront plus si fatiguées alors.
Mais comment dirais-je, les choses qui se sont passées, il faut les vivre pour savoir ce que c'est. C'est inimaginable. Nous avons même fait des petites écartables, des filles qui n'avaient rien pour manger, des Italiennes qui étaient venues et qui n'avaient rien, elles n'étaient pas syndiquées. Alors, on s'est éduqué 3-4 mois avant et on les payait comme ça.
Parce que, attention, dites, les hommes ont été mis au chômage, il n'y a plus personne qui travaillait.
Charlotte Augustin.
Oui, il y en avait qui venaient avec leurs femmes.
Hein. Oui.
Ils venaient nous aider quand on amenait des colis pour faire les colis pour les plus malheureux, etc. C'est les gens qui avaient des enfants. On a été beaucoup aidés, hein, d'ailleurs, par des gens de chez vous aussi, d'ailleurs.
Tous les délégués venaient nous aider.
Oui, même d'autres qui venaient avec eux.
On venait avec des camions. Les camionneurs montaient au-dessus et on passait les colis par les fenêtres.
Du coup, au bout d'un certain temps, parce qu'elle a duré longtemps, cette grève, c'était organisé, quoi. Enfin, il y avait une certaine organisation.
Oh oui, mais il a fallu organiser. Hein. Il faut aider les gens, parce que vous comprenez bien que s'ils n'avaient pas eu des aides matérielles et de la boostify, ça n'aurait jamais duré 12 semaines. Hein. Parce qu'il y avait des cas malheureux. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la FN, il y avait des familles entières qui y travaillaient. Ouais. Le père, la mère, des gosses. Alors, c'était tout chômeur, hein, tout gréviste.
Chers amis de la FN, votre action dynamique est en fait un bain de jouvence, d'optimisme, d'espérance, non seulement pour les travailleuses et la classe ouvrière belge, pour nous aussi en France, mais pour toutes les travailleuses, pour les classes ouvrières des 6 pays du marché commun. Vive la lutte des travailleuses de la FN ! Vive la solidarité entre nos deux classes ouvrières, entre les métallurgistes belges et français. Vive l'unité d'action, plus que jamais indispensable, entre les organisations syndicales et les travailleurs des 6 pays du marché commun.
Et vous vous souvenez, Jenny Magnier, de la délégation française?
Ah oui, je me souviens très bien parce qu'elle m'a émotionnée. C'est terrible. Elle a voulu commencer à chanter une internationale avec le poing levé. Tout le monde s'est levé, la petite Germaine, tout de suite. Et alors, je riais parce que j'étais sur la scène et elle était plus bas, là. Je les voyais toutes. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui m'a pris, tellement j'étais émotionnée. Je suis montée sur ma chaise, moi, et j'ai commencé la Marseillaise. Alors, tout le monde s'est levé et on chantait tous ensemble la Marseillaise. Suite après, 15 jours après, eh bien, Schröder s'est mis en grève. Et puis alors, ça a été, toutes les usines ont commencé.
Maintenant, camarades, vous connaissez la nouvelle chanson. Après la réunion, chantez-la. C'est tout ce que j'avais à vous dire. On continue.
Le travail fait la santé, pour sa faute est augmentée. S'il refuse de nous le donner, faut pas travailler.
Oui, parce qu'il y en a qui faisaient des petits papiers et on se les passait et tout le monde avait son petit papier et chaque fois qu'on allait en réunion, on rajoutait un couplet.
Et oui. Et Charlotte Augustin, les assemblées générales, comment ça se passe? Il y a les délégués syndicaux, il y a vous, le comité de grève.
Oui, ben oui, évidemment. Hein.
Vous avez fait au moins une dizaine, je crois, d'assemblées générales durant ces 3 mois.
Oui, quand même quelques-unes. Et puis là, on a défilé dans Herstal d'abord, et puis on a défilé à Liège. Hein.
Oui.
Là, c'était formidable.
Ce matin, quelques 3000 femmes ont défilé dans la grisaille à travers les rues étroites de Herstal, faubourg industriel de Liège.
5000 personnes sont venues à pied de Herstal jusqu'au centre-ville. Il y avait le soutien de beaucoup d'organisations, hein, dont celles qui faisaient partie du comité des grèves, mais qui sont venues avec des cars pour faire masse, quoi. Hein. Dans les usines, on est sortis, j'ai fait fermer mes magasins. On a fait le boulot, quoi.
C'est une nouvelle photo qui m'a été donnée il y a 2 ans. C'est celle où on est allé de Herstal à Liège à pied, mais c'est long, hein. Et voilà tous les slogans, et on a jusqu'au bout.
Donc voilà, fin de discrimination professionnelle, oui, basée sur le sexe.
Égalité. J'ai beaucoup égalité. Hein. C'est vers la fin, ça.
Parce en avril,
que...
hein?
Oui, oui, parce qu'on avait des robes plus légères, hein, alors qu'on a commencé au mois de février, qui gelait à Pierrefendre.
Tout s'est passé dans le calme et même dans une certaine ambiance de bonne humeur, la fanfare était de service.
On était applaudis tout le long du chemin, de Herstal à Liège.
Là, à ce moment-là, votre grève, enfin, était reconnue aussi, enfin, popularisée.
Oui, oui, oui. Et pourtant, ni la télévision, ni la radio, et très peu les journaux, sauf La Wallonie, qui est un journal du PS, avaient mis un peu de la grève. Sinon, personne n'en a parlé. La Meuse, personne n'en parlait. Il ne fallait pas ameuter la population. Ça aurait été la révolution... catastrophique.
Le travail, c'est la santé, rien c'est faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font part de vieux os. Les délégués ont demandé, la direction a refusé. Nous, les femmes, il faut marcher. Pour faire trotter nos délégués.
Au départ, le 16 février, c'était un mouvement régional, mais au fil des semaines, l'Europe des travailleurs a suivi le mouvement avec beaucoup d'attention. Les 3000 ouvrières de la FN font maintenant œuvre de pionniers. Leur slogan « À travail égal, salaire égal » a trouvé un écho intéressé dans tous les pays où la disparité des salaires masculins et féminins est encore la règle. Ce mouvement est unique dans la lutte ouvrière et la question est posée, aura-t-il la valeur d'un exemple, fera-t-il tache d'huile?
C'est une manifestation qui a fait de l'effet.
Animassé.
Et les patrons ont commencé à céder dans les autres entreprises que la FN. Ce qui, d'une certaine façon, autorisait la FN à céder.
La grève a duré très longtemps et nous ne savions d'ailleurs pas très bien pourquoi, mais l'historien que je suis l'a appris après,
Claude Gaillet,
c'est que l'entreprise avait de très gros contrats, particulièrement dans le domaine aéronautique à l'époque, qui lui permettaient entre guillemets de tenir longtemps, c'est-à-dire de résister aux revendications. Et vous savez que à la fin des fins, la direction a concédé la moitié, je crois que c'était 2,50 francs de l'heure au lieu de 5, parce qu'elle a tenu très très longtemps.
On a commencé à la Bruxelles.
Rita Josette.
D'abord les délégations syndicales avec les patrons. Et ils ne voulaient rien entendre, Et nous, on était passants, on piaffait, cinq francs. On ne recommencera pas avant. Alors, eux, ils en avaient aussi ras la casquette. Hein, tant à discuter pour rien. Alors, finalement... le conciliateur social et M. Petit. Finalement, ils ont dit, mais vous savez, les femmes ne nous croient pas qu'il n'y a rien, Alors, M. Petit a décidé qu'il y aurait des femmes témoins. On ne pouvait pas prendre la parole, mais on était là comme témoins de ce qu'ils disaient. Et comme ça, on assistait le dernier 15 jours aux réunions patron syndicat. Ben alors, moi je plais ce monsieur Petit. Les syndicats étaient dans une pièce avec nous et les patrons étaient dans une autre pièce tout seul. Et ce pauvre homme, il allait d'une pièce à l'autre. Il venait chez nous et puis on disait ce qu'on voulait, ce qu'il fallait. Oh, les femmes veulent ça et elles veulent pouvoir se laver et elles veulent d'avoir 5 francs, et bon, il allait trouver les patrons, répéter ce qu'on lui avait dit. Et eux discutaient aussi, non, il n'y a rien à faire, on ne veut pas, même pas les centimes là, hein, même pas un centime. Alors, finalement, ils ont recommencé, 1 franc, et là, on a pris la parole, on a dit, monsieur Petit, on ne demande pas la charité, on veut ce qui nous est dû. Il est retourné. Finalement, il a posé la question, mais est-ce que vous recommenceriez? Et là, les GTB nous a vendus. parce que tout de suite, elle a proposé 3 francs 50. Évidemment. De 5 francs, 3 francs 50. Et même, moi, j'étais à côté de mon délégué principal, Jean-Braham, et il me dit, mais pourquoi ils vont directement 3 francs 50? Ils pouvaient aller 4 francs 50, 4 francs, mais direct 3 francs 50. Il y a eu des conciliables. Vous savez, la politique, hein?
Donc alors, on a pu négocier avec la FN, et les femmes demandaient 5 francs, et elles ont eu immédiatement 2 francs, plus 75 centimes au 1er janvier, de l'heure donc, hein, au 1er janvier de l'année suivante. Et ça représentait la moitié de ce qu'elle demandait, puisqu'on demandait 5 francs, mais 3 fois plus que ce que le patron avait proposé initialement, puisqu'il ne proposait que 50 centimes de l'heure. Hein.
Mais alors, quand on a repris le train à minuit, je disais, vous allez voler demain. Quand les femmes vont se réunir et que vous allez dire 3 francs 50, vous allez voler.
Alors, comment ça se passe là? Vous vous souvenez quand ils annoncent ça, donc fin avril, début mai même?
Aïe, aïe, aïe. Se sont levés de bon, on ne recommence pas, on veut 5 francs. Et ils ont dû avouer, c'est ça ou rien. Ils ont dit, ben non, il n'y a plus qu'une chose à faire, va faire un vote secret. Là, on savait qu'on était perdu. Les votes secrets, c'est toujours fini, fini. Il y en a qui ont peur. Et il y en a qui en ont marre. C'est 3 mois de grève. Hein? Il n'y a qu'une qui a osé dire à la Russe, moi, je ne peux pas continuer la grève. Il y en a qui lui sont tombés sur le paletot. Nous, on a crié, non, laissez-la tranquille, laissez-la tranquille. La raison de le dire, la femme. C'est une femme de Wantre qui était toute seule avec 2 enfants. Et quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix.
Quand je me souviens du temps de la grève, des plis menaçants se creusent soudain dans mon front qui rêve. Quand je me souviens du temps de la grève, sous l'émotion s'agite mon sein.
La reprise du travail se fait rapidement, sans doute motivée par la détresse que connaissent les ménages suite à 12 semaines de grève. Si les femmes machines n'accèdent pas à l'égalité de rémunération, sur le principe, elles obtiennent gain de cause. Désormais, la question de l'égalité des salaires masculins et féminins mobilise les esprits au niveau national et européen.
Et ça a contribué. Et alors cette grève, si on peut en tirer un peu plus d'enseignement, ça a donné du crédit à la Commission des femmes à l'intérieur de notre organisation et des autres organisations. Et ça a fait mieux prendre en compte nos revendications. Je peux dire que c'est au départ de cela que on a pu véritablement commencer à faire de l'organisation un levier pour la promotion des femmes. On a tout mis sur la table, hein, l'avortement, les crèches, les problèmes des logements, des familles monoparentales, tout ce qui fait la discrimination. Quand une femme travaille, elle a toujours un poids de plus sur les épaules que les hommes, hein, c'est pas si simple. On ne peut plus enterrer ce problème. Et le nombre important de femmes au travail, même si elles sont dans des emplois précaires, même si on les sont condamnées à des temps partiels, ça fait que l'organisation syndicale ne peut plus fermer les yeux sur le phénomène et sur ses retombées sociologiques. Donc ça a été quelque chose de très positif, ça a été un coup de tonnerre dans un ciel patriarcal serein. Voilà.
Si les ouvrières de Herstal ont obtenu des augmentations, l'article 119 du traité de Rome qui pose le principe à travail égal, salaire égal, n'a lui pas encore reçu une complète application. C'était néanmoins une diablesse de grève.
Non, non, mais c'était bien fait, attention. Ouais.
Et tout le monde chantait.
Oui.
À travail égal, salaire égal, la grève des ouvrières d'Herstal en 1966, un tournant pour l'histoire des femmes.
Le travail, c'est la santé, pour sa faute être augmentée, s'ils refusent de nous le donner, faut pas travailler.
Avec les témoignages de Charlotte Augustin, Rita Josette, Jenny Magnier, Claude Gaillet, Annie Masset et Eliane Polski. Avec des extraits du reportage sonore 9 millions 9 de Pierre Manuel de la radio-télévision belge. Merci à Jean-Pierre Greuze, Martine Heybreck, Patrick Siplet et Marc Molitor de la RTBF, ainsi qu'à Jeannette Padziarkowski et Dominique Millet de Radio France. Merci également à Marie-Thérèse Kohenen, auteure du livre « La grève des femmes de l'AFN » en 1966, Marie-Anne Tunissen, réalisatrice du documentaire « Femmes machines » et Hans Everts, du service de la documentation de l'association André Renard. Prise de son, Pierre Garrigue. Mixage, Marie-Dominique Bougot. Un documentaire de Séverine Yattard, réalisé par Christine Robert.